Donc, bonsoir à tous. Juste quelques mots pour introduire donc, Emmanuel Dreyfus et Kashink et présenter un petit peu la conférence de ce soir. Le fait qu'il y ait Kashink en train de peindre un mur à Miami sur l'affiche de l'exposition dans une photographie de Martha Cooper, donc une autre femme photographe, ce n'est pas un hasard. C'était une des choses que cache cette exposition, au-delà, on va dire, du numérique. C'était au fait expliquer aussi, montrer comment le milieu de l'art urbain, qui est souvent perçu comme un milieu très masculin, ce qui est effectivement le cas, est en train de changer aussi, comme la société, on va dire. Et que ce changement se fait aussi grâce à des femmes qui portent un certain discours, on va dire, à travers leur travail artistique, mais je dirais aussi à travers leur corps. Ça, je pense, c'est une des choses dont vous parlerez. Et donc, l'idée, on va dire, parmi, on va dire, les conférences organisées dans le cadre de l'exposition, d'axer une conférence autour de cette thématique, s'est imposée presque de manière naturelle. Kashink étant sur l'affiche, voilà, on l'a bloqué immédiatement et pour lui proposer d'être là ce soir. Et le choix d'Emmanuel Dreyfus aussi s'est imposé de manière assez naturelle parce que c'est une des journalistes vraiment qui, depuis très longtemps, travaille sur ce sujet en France, on va dire, et pas que. Et en plus, elle a un appétit pour le numérique, comme le montre là d'ailleurs la référence à un livre qu'elle a écrit avec Stéphanie Lemoine. Le livre est sorti, c'était quoi, il y a un an et demi environ, non? Voilà, tout à fait. Qui touche justement cette question de l'anonymat, on va dire, donc d'un art anonyme dans l'espace public et en même temps dans un espace public qui est à la fois dans le monde réel et dans le monde digital. Et donc voilà, on avait proposé de les mettre face à face, on va dire, et de voir avec curiosité quel serait le résultat. Donc voilà, je dirais que je peux arrêter ici, mais c'était voilà, juste important de souligner ces points. Et puis Emmanuel, je te laisse la parole et de toute manière, on aura un temps à la fin, on va dire, pour poser des questions et voilà, ouvrir un peu un débat. Merci beaucoup en tout cas pour être là.
Même si on va plus parler de caching que de numérique ou d'anonymat, mais plutôt de son activisme. Moi, je suis ravie d'animer cette rencontre avec cette artiste que je trouve tout à fait singulière, car elle a pu remettre en cause les codes esthétiques, la représentation des genres avec ses portraits de créatures non binaires, et qui a très tôt affirmé son droit à la différence et à la liberté de disposer de son corps comme elle l'entend, en se dessinant, depuis plus de 10 ans maintenant, chaque jour une moustache, deux traits d'eyeliner ou de crayon noir, comme peuvent le faire des millions de femmes dans le monde, mais sur leurs paupières, sous ou sur. Et ça n'a jamais choqué personne. Braver les interdits, se mettre en danger, engager son corps et ses idées pour venir perturber, questionner et même enrichir l'espace public, c'est ce qui l'a fait vibrer et c'est ce qui l'a fait vibrer. Elle définit d'ailleurs sa pratique comme un art public performatif et activiste. Et je voudrais commencer par là. Je voudrais que tu nous éclaires sur cette définition que tu as dû mettre un certain temps à formuler après avoir réfléchi sur ta pratique.
Oui, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de faire cette discussion avec toi. Merci Christian, c'était vraiment, c'est une expérience vraiment pour moi extraordinaire que de pouvoir avoir cette visibilité sur Paris, dans ma ville chérie. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, j'ai fait beaucoup plus finalement de peinture en dehors de la France qu'en France, même si maintenant ça change un peu. Bizarrement, la visibilité que me donne cette affiche m'apporte beaucoup de jobs, c'est très bien. Voilà, on est content. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que ça prend du temps de trouver les bons mots pour définir ce qu'on fait. Je pense que, en ce qui me concerne, dans un premier temps, je me suis sentie street artiste. J'avais que ça, en tout cas, comme mot qui pouvait définir ce que je faisais. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que peintre, ça me convenait mieux. Que finalement c'est de la peinture que je fais, c'est pas comme du street art. Mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver un lien entre ma pratique d'atelier et les fresques que je fais dehors. Ma pratique d'atelier s'est rapidement étiolée parce que je trouvais aucun plaisir en fait à rester à l'intérieur et à produire des œuvres dans un contexte qui était l'extrême opposé de ce que j'avais l'habitude de pratiquer.
C'est presque paradoxal, quoi.
C'est tout à fait paradoxal. Et donc c'est tellement paradoxal et ça m'a tellement travaillé que j'en ai fait une expo qui a eu lieu à Miami en 2014 et qui explorait justement ce paradoxe entre l'intérieur et l'extérieur. L'expo s'appelait Inside Outside. Et pour cette expo-là, je vous encourage à aller regarder sur YouTube. J'ai fait toute une vidéo en fait, qui documentait des expériences où justement j'explorais ce paradoxe entre l'intérieur et l'extérieur et comment trouver une cohérence en fait, dans ce travail. Et donc, finalement, si je n'arrivais pas à peindre dans mon atelier, est-ce que je pouvais vraiment considérer que j'étais peintre ? C'est ça qui m'a posé question à un moment. Je me suis dit, mais non, mais je ne suis pas peintre, en fait. Si je ne produis pas de toile, si je ne fais pas de choses dans un atelier, si je ne fais pas de, même d'exposition dans des galeries, parce que j'ai toujours été dans une grande prudence vis-à-vis du marché de l'art. Alors, du coup, est-ce que je suis vraiment peintre ? Ben, je ne suis pas vraiment peintre. Donc j'ai réfléchi petit à petit avec cette moustache que donc, je porte depuis, comme tu l'as dit, plus de 10 ans, quotidiennement. Hein, tous les matins, je me maquille comme ça, c'est véritable. Sauf quand je suis malade. Voilà, c'est le seul jour où je ne me maquille pas, c'est quand je suis au fond de mon lit. Mais du coup, l'idée de porter cette moustache, je l'ai reliée en fait, à l'idée de tracer des lignes dehors et donc d'être visible dans l'espace public. C'est ça qui m'a donné envie, finalement, de considérer que c'était plutôt une forme d'art qui était performative, puisque j'étais, et je suis toujours, en action dans mon corps, dans l'espace public, sous une forme de performance. Cette moustache, elle pourrait être considérée, finalement, comme une performance d'art perpétuel de plus de 10 ans. Voilà, un truc un peu extrême comme ça, de l'art total, quoi. Et j'aime bien cette idée. J'ai toujours admiré les artistes qui ont une forme d'art total dans leur performance, que ce soit... Abramovitch ou Orlan, ou bref, des artistes qui sont vraiment dans une pratique où leur corps est totalement impliqué dans leur art. Et aussi activiste, puisque j'ai des trucs à dire. Et du coup, l'action de l'activisme recoupe cette idée de performance. Peindre des murs géants, c'est un peu comme faire une performance finalement aussi dehors, quoi, d'être physiquement impliqué dans une tâche qui est extrêmement épuisante, parfois même. Donc voilà, c'est m'est venu petit à petit.
C'est une définition de l'art urbain aujourd'hui aussi.
Oui, je pense que
pour ceux, pour les, on va dire pour les artistes, qui
les artistes
moins ont une intention artistique.
Oui, je pense que s'il y a une pratique publique, c'est de l'art public. Et s'il y a une pratique qui implique vraiment, et c'est le cas de toutes les personnes qui pratiquent l'art urbain, et ben ça peut. Je pense que cette définition, elle pourrait correspondre vraiment à beaucoup de gens. Et après, l'activisme, c'est encore autre chose, mais...
Parce que l'activisme, c'est par rapport aussi à la question de l'identité et des représentations de la femme, qui sont quand même fondamentales dans ton travail. Tu travailles sur le portrait. Et c'est un engagement. Et est-ce que ces questionnements, c'est tous ces questionnements qui t'ont amené aussi à exposer le tien, ton corps, en action, dans la rue ? Qu'est-ce qui te pousse à peindre dans la rue ? Surtout, est-ce qu'une femme... a plus de devoirs et moins de droits dans l'espace public par rapport à un homme ?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que je ne me suis pas posé cette question au début. Ce qui est marrant, c'est que quand la question du féminisme est revenue dans le débat public, c'est là que, à force qu'on me demande si c'était plus difficile pour moi, par exemple, d'être dans ce milieu majoritairement masculin, ou si c'était plus difficile pour moi physiquement de peindre des murs, c'est là que je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai, en fait... bah oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question que je m'étais posée peut-être inconsciemment en prenant ce droit justement d'occuper cet espace. En me disant, je prends ce droit qui ne m'est pas donné puisque j'ai fait aussi de la peinture illégale. Hein, donc du coup, on peut aussi considérer qu'il y a cette approche-là de... Voilà. C'est ça. De braver les interdits et puis de prendre une place qui n'est pas donnée. Et qui finalement n'est pas donné ni dans la pratique artistique ni bah, dans ce maquillage hein, qui n'est pas du tout conformiste et qui du coup rebat complètement les cartes sur la définition déjà des codes esthétiques et puis du genre. Tout ça c'est des questions qui pour moi me trottaient dans la tête depuis longtemps mais que j'avais pas formalisé puisqu'il n'y avait pas ces mots avant. Même le street art quand j'ai commencé n'était pas si plébiscité que ça.
Oui, c'est vrai que question féminisme, tous les mots qu'on, enfin, intersectionnalité, gender fluid, binaire, ce sont des mots qu'on n'employait pas, qui n'avaient pas ce sens. Donc quelque part, il y a un aspect pionnière.
Ouais, ouais, carrément.
Non, mais il y a eu d'autres féministes, mais je veux dire, tu étais déjà inscrit dans,
oui,
dans cette révolte quelque part.
Ouais, je pense que c'est un bon mot, la révolte. C'est un très bon mot, parce que même si je n'avais pas encore formalisé tout ça et que je ne m'étais pas encore posé toutes ces questions, je savais que ce qui me donnait l'énergie d'aller dehors, l'énergie d'aller me confronter aussi à la rue, qui n'est pas un espace safe pour les personnes perçues comme femmes, qui n'est pas un espace safe pour non plus s'exprimer artistiquement et encore moins avec des bombes de peinture qui sont connotées, en tout cas qui l'étaient jusqu'à il y a peu, encore sur un côté vandalisme, pas bien, dégradation, etc. Prendre cette place et puis explorer un peu les limites. Enfin, les limites, il n'y a pas de limite en vrai. The sky is the limit. Mais c'est
la légalité, peut-être.
La légalité, bien sûr, évidemment. Mais bon, tout ça est bien malléable. Mais j'ai eu de la chance. J'ai été arrêtée. J'ai déjà fini la nuit en garde à vue plusieurs fois. Donc je sais ce que c'est que d'être face aux forces de l'ordre. Dans une prise en flagrant délit, hein, j'ai vécu ça, et aussi d'être traitée donc comme une personne perçue comme femme dans ces circonstances.
Ils sont pas plus sympas avec les femmes ?
Non. Les flics femmes ?
Non, les flics femmes, mais les flics hommes.
Voilà, j'ai que ça à dire. Un haussement de sourcil prononcé. Je pense qu'il y a une vraie, et ça recoupe un peu ce que tu disais tout à l'heure dans la transgression. C'est que entre femmes, parfois, on a tellement internalisé toutes les règles, les devoirs et le peu de droits que parfois, malheureusement, ça vient aussi de l'intérieur, ce recadrage ou ce toi, tu te permets quelque chose que moi je me serais pas permis de faire. Et donc du coup, ça me dérange parce que tu joues pas le jeu de la féminité, tu vas pas dépenser comme moi de l'argent, du temps, de l'énergie, souffrir pour être acceptable au regard dans cette féminité si codifiée. Et ça m'est arrivé malheureusement de me retrouver dans ces situations-là aussi, d'être un peu en porte-à-faux par rapport à d'autres femmes. Et sur des représentations d'autorité, c'est systématique. Ça ne m'est pas arrivé une seule fois que dans un lot où, par exemple, il y a des flics, femmes et hommes, c'est les femmes qui veulent m'arrêter. Les mecs, limite, pourraient me laisser partir presque, si je leur parle un peu, genre, oui, mais regardez, c'est de l'art.
C'est de l'art.
Voilà.
Les amadouer un
mais
peu.
Ça m'est arrivé trois fois quand même, cette situation, la même, que, malheureusement, c'était... l'internalisation, je pense, de cette oppression systémique qui fait que tout à coup, crac, je vais la reporter sur toi parce que tout ce que j'ai pas pu faire, tout ce que je me suis pas autorisée de faire, et ben toi, tu vas certainement pas pouvoir le faire aujourd'hui.
Donc, par rapport aux droits et aux devoirs de la femme dans l'espace public, il y a un ressenti, ça a évolué ou parce que les mecs, ils y vont, enfin les graffeurs, ils se posent pas ce genre de questions, quoi.
Ouais, je crois que ça vient de la base de pouvoir pisser dans la rue tranquillement.
Non, mais...
Donc, tu sais que c'est chill, c'est correct, c'est acceptable. Mais pour une femme, non. Donc, du coup, il y a tout un processus qui découle de ça. Non, je pense qu'il y a tout simplement aussi l'histoire de la conquête, peut-être d'être valorisée dans la conquête du territoire, dans la revendication d'un territoire. Et qui n'est pas du tout encouragé pour les femmes et du coup peut-être et aussi une pléthore d'artistes masculins présents dans l'histoire de l'art en général qui du coup ont tracé la voie pour d'autres mecs à se dire moi aussi je suis légitime d'y aller et je me pose pas cette question en fait.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça a évolué, ça a changé en positif ou
oui.
Ça reste
oui. Oui, madame. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est que quand j'ai commencé à peindre, je pense qu'en Europe, dans l'Europe entière, il devait y avoir que quelques dizaines d'artistes femmes actives vraiment dans ce milieu. Et aujourd'hui, on les compte par centaines. Et dans le monde entier, par milliers. C'est hallucinant le nombre d'artistes femmes qui se sont lancées, même dans d'autres domaines. Par exemple, moi, j'étais fascinée et je voulais devenir tatoueuse quand j'étais plus jeune. Dans ce milieu-là, il y avait zéro femme, quasiment. Et maintenant, il y en a plein. C'est pareil dans plein de domaines qui étaient plus ou moins masculins, en tout cas connotés sur un truc un peu badass aussi, un peu genre voyou, et qui du coup n'étaient pas du tout accessibles à des femmes. Et maintenant, les temps ont vraiment changé, et je pense que c'est vraiment pour le mieux.
Tu puises alors dans ton esthétique, tu puises dans la culture et les rituels des masques. C'est une tradition qui existe partout, même si on a un peu, au début, un peu la sensation que c'est quand même très latino-américain.
C'est ton interprétation.
Oui, bien sûr. Bon, tout ça pour dire que tu te masques quelque part avec cette moustache. Est-ce que derrière cette dissimulation, ce travestissement, où tu dis toi-même choisir qui te voit sans moustache, est-ce que derrière ces dissimulations, il serait question de libérer un alter ego, un autre toi, ou d'affirmer un certain pouvoir? Et voire même une certaine forme d'empowerment.
Oui, alors il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis. D'abord, je vais parler vite fait des masques parce que je pense c'est important. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut faire circuler les photos sur les photos d'après. Parce que j'ai mis plusieurs photos aussi. Là, c'est des illustrations. En fait, j'ai mis un peu chronologiquement. Ces photos-là, ces illustrations-là, elles datent de 2010, un truc comme ça. Donc c'était vraiment un style particulier qui après a évolué. Mais j'aime bien du coup montrer des trucs anciens aussi pour voir l'évolution du style. Je trouve que c'est intéressant dans la pratique artistique. Donc la tradition des masques effectivement m'inspire beaucoup parce qu'elle est universelle. C'est vraiment une tradition qui existe dans toutes les cultures du monde et ça c'est rare. Les humains ont des cultures très diverses avec des manières de manger, de s'habiller très diverses. Mais les masques, ça existe vraiment dans le monde entier. Et je trouve que c'est très beau de voir une connivence telle entre différentes cultures, différents continents. Donc quand je me suis rendu compte de ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'aller explorer cet aspect aussi culturel et aussi d'artisanat. Moi, j'adore l'artisanat. J'ai beaucoup de respect pour les artisans d'art. J'ai toujours été fascinée par ça. Et du coup, c'est possible de mettre la photo d'après. Est-ce que vous voulez que je dise à chaque fois? Bon, je continue à parler en même temps. En gros, la tradition des masques, elle se recoupe avec celle du maquillage. Et je ne sais pas si étymologiquement, ce ne serait pas un petit peu d'ailleurs masque, maquillage. Un peu une étymologie mascara. Similaire, voilà, mascara. Et donc, effectivement, je trouve que c'est très intéressant parce que le masque permet à la personne qui le porte d'aller explorer au fond de soi quelque chose qui d'habitude ne serait pas montré. Donc, tu parles d'alter ego, effectivement.
De visibiliser l'invisible.
Tout à fait. Aussi. Et le maquillage, c'est pareil. Un magnifique exemple, c'est l'exemple des drag queens ou des drag kings qui, en se maquillant, explorent du coup autre chose dans leur intérieur qui, d'habitude, n'est pas forcément si visible. Et je trouve que c'est très intéressant, même pour des gens lambda qui ne font pas pratiquer forcément cette forme d'art. Si, par exemple, tu essayes un rouge à lèvres différent des couleurs que tu as l'habitude de porter, tu vas voir que c'est vraiment... Tu vas te regarder, tu vas faire « Ah, oh, tout à coup, c'est pas pareil que d'habitude. Tout à coup, je peux aller explorer quelque chose en moi. » Et le masque a vraiment permis ça, que ce soit dans une tradition spirituelle, dans beaucoup de traditions, notamment dans le continent africain, une dimension spirituelle, ou en Asie même, d'aller explorer au-delà de l'humain, de transcender l'humain. Que ce soit dans une pratique artistique type théâtre no ou théâtre quel qu'il soit, comme il y en a en Asie, ou une pratique sportive comme par exemple les masques de lucha libre du Mexique, on va aller explorer à l'intérieur de soi quelque chose d'autre ou quelque chose qui est là mais qui est endormi. Et je trouve ça très intéressant de voir les masques dans cette perspective et plus dans une perspective très occidentale où on se dit que les masques servent à nous cacher, que les masques nous masquent un peu notre authenticité, que c'est pas vraiment nous, que
alors que ça peut être un jeu
tout
aussi
à fait.
De s'inventer d'autres personnalités,
voilà,
et de vivre notre vie.
En ce moment, mon grand dada, c'est de dégommer un peu toute la culture judéo-chrétienne et essayer de retransposer tous les concepts de culpabilité ou de négativité en autre chose, parce que je trouve que c'est trop, ça fait chier. Donc, explorer les masques en se disant que oui, s'il y a des masques sociaux, oui, heureusement que tu peux t'adapter, c'est plutôt signe d'être pas mal dans sa peau, ou en tout cas d'avoir la capacité mentale de pouvoir le faire, de pas être la même personne au travail qu'avec ta famille, qu'avec tes enfants ou qu'avec tes proches. Évidemment qu'on s'adapte, évidemment qu'on parle pas pareil à son boss que à ses enfants, évidemment qu'on va pas avoir la même posture, les mêmes manières de s'exprimer. Et tout ça, c'est des masques, mais ça constitue notre identité. Et c'est très riche et c'est très bien.
Oui, mais l'idée de faire des portraits, ça s'impose d'emblée quand tu décides de sortir peindre dans la rue. C'est cette question-là que tu as envie de mettre en lumière.
Oui. Alors.
Avec le masque et ses multiples yeux. C'est quoi ces multiples yeux? C'est le regard des autres? C'est le regard qu'on porte sur soi-même?
Ouais.
Il représente quoi?
Alors, je réponds aux yeux et puis après je répondrai au portrait. Alors les yeux, ça m'est venu assez tôt. Au début, je peignais des personnages qu'avec deux yeux. Pendant un moment, ils n'avaient que deux yeux et il n'y avait pas non plus trop de couleurs. Je restais plus sobre. Et en fait, les quatre yeux sont venus d'un jour où un mur que j'avais peint au frigo, qui est un endroit un peu emblématique de Paris dans le 13e, où il y a énormément de personnes qui viennent peindre sur des murs qui sont plus ou moins tolérés, même si je me suis fait arrêter là-bas quand même, une des premières fois. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. J'avais peint un mur avec trois personnages. J'aimais bien faire des triptyques. Donc, j'avais peint trois personnages et quelqu'un avait... Une fois d'après où je suis revenue sur ce mur, avait effacé les yeux, les oreilles et la bouche de mes personnages avec de la peinture blanche, avait effacé ma signature et avait écrit un texte politique qui parlait d'injustice à côté de ces personnages. Ça parlait de la situation politique en Birmanie qui à l'époque était merdique, comme encore maintenant d'ailleurs. Voilà. Et en fait, c'est un peu un jeu de mots foireux, mais ça m'a ouvert les yeux sur le fait de pouvoir voir les choses autrement. Je savais que le graffiti pouvait être politique, parce que j'ai grandi avec aussi des tags punk, et je savais qu'il pouvait y avoir cette notion, mais je n'avais pas conscientisé qu'il pouvait y avoir une dimension tellement, avec des messages tellement forts. Donc j'ai rajouté des yeux là où la personne les avait effacés. J'ai rajouté des yeux en plus pour faire signifier à cette personne que tu crois qu'on ne voit pas, qu'on est aveugle, sourd, muet face à cette situation, mais on voit même plus que ce que tu crois. Et c'est comme ça que les doubles yeux sont venus. Et ensuite, c'est devenu un petit jeu de pouvoir séparer les paires d'yeux. Et parfois, en les séparant, si on joue à ce petit jeu, on voit que les yeux du haut signifient une émotion et les yeux du bas, une autre émotion qui parfois est même contradictoire. Donc pour moi, c'est une manière, dans un style très graphique et simple qui est le mien, de pouvoir expérimenter et exprimer deux choses en même temps, de donner plus de profondeur à mes personnages. Parce que dans la vraie vie, parfois, on est comme ça. On donne une allure très confiante et puis à l'intérieur, on est triste ou on est timide.
Notre regard ne dit pas tout sur
voilà.
Ce qu'on pense.
Donc je trouve ça intéressant d'explorer ça. Et puis le portrait, je trouve que c'est infini. La diversité des portraits qu'on peut présenter. Moi, j'ai été beaucoup inspirée par des artistes qui étaient spécialisés en portraits, que ce soit évidemment Frida Kahlo, qui m'a bouleversée à l'adolescence, ou des photographes d'autoportraits, Claude Cahun, Lee Bowery, des personnes qui ont marqué aussi par leur exploration, leur identité dans leurs autoportraits, Cindy Sherman. J'ai été extrêmement marquée par ces artistes-là et aussi parce que j'ai été élevée à un moment par un père qui était orthodoxe et qui m'a fait découvrir l'iconographie, des icônes traditionnelles byzantines ou en tout cas dans cette religion, et qui du coup m'ont marqué, je pense, à un jeune âge. Et donc du coup cette tradition de portrait coupé, de vraiment des visages concentrés sur un buste, ça me parle. Ça recoupe aussi cette idée de visage, de masque. C'est vraiment cadré sur quelque chose de très direct, très et infini en termes de possibilités. Donc c'est des personnages imaginaires. Moi j'aime bien les présenter comme ça. Et souvent je dis que d'autres ont inventé les Schtroumpfs, les Simpsons ou des mangas. Moi j'ai inventé ces personnages. Et ces personnages-là, j'explore toute leur potentialité dans les couleurs, les traits, etc. Mais ça reste toujours ce style, comme les Simpsons ou les Schtroumpfs. Mm-hmm. Tu reconnais tout de suite que...
C'est sans limite. Tu passerais pas à autre chose que du portrait. C'est-à-dire, ces portraits, tu peux...
Oui. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le visage. C'est le visage.
Et tu as fait, au début, c'était plus féminin, enfin, vous voyez. Après, tu as fait aussi des portraits qui étaient un peu plus masculins. Et aujourd'hui, c'est...
Alors, c'est l'inverse. J'ai commencé par peindre que des hommes. Enfin, en tout cas, c'est ce que je disais. Et je l'ai dit pendant longtemps. Parce que c'était très difficile pour moi d'imaginer représenter des visages de femmes qui ne soient pas esthétiques. J'ai commencé à peindre des portraits parce que je me suis trouvée à emménager à Paris. J'avais 17 ans. Je me suis trouvée bombardée d'affiches publicitaires dans l'espace public, dans le métro, des 4x3 par dizaines, qui représentaient des visages et des corps féminins toujours parfaits, toujours les mêmes, sans diversité, encore pire à l'époque. Voilà, donc toujours les mêmes femmes, toujours les mêmes corps, les mêmes trucs. Et j'ai été choquée de ça, de voir que le stéréotype d'une femme montrer comme un exemple, comme quelque chose qu'il faut être, parce que c'est bombardé partout sur les murs, c'est une femme mince, grande, blanche, enfin avec la peau claire, avec des cheveux lisses, sans rides, sans boutons, sans défauts, avec des dents blanches bien alignées, sans poils, sans cellulite, sans, bon, vous connaissez, hein. Voilà. Et donc
toute
retouchée, bah, et qui correspondait à personne que je voyais autour de moi dans le métro. Il n'y avait personne qui ressemblait à ces femmes. Et si je trouvais ça très cruel, dès un jeune âge, de voir cette réalité placardée partout comme un exemple impossible, un idéal irréel et impossible à atteindre, qui du coup cantonnait les corps féminins à être tout le temps nuls, les corps réels. À être jamais assez bien, à être jamais comme il faut. Si tu veux être heureuse, si tu veux être acceptable, si tu veux être aimée, il faut ressembler à cette femme idéale. Et en fait, c'est impossible. Et donc, du coup, je trouvais ça dommage. Je me suis rendu compte, et je pense que ça a été un terreau pour ma créativité, que c'était une perte de temps incommensurable que d'essayer de ressembler à ça.
Oui.
Et que ça nous empêchait de nous concentrer sur des choses importantes, qui est se connaître soi, se développer en tant que personne, savoir qu'est-ce qu'on aime, savoir où on veut aller, savoir voilà, qui on est, tout ça.
Mais cette pollution visuelle, au début, qui était placardée sur les affiches, aujourd'hui, en fait, même si on parle de féminisme, de libération de la parole de la femme, avec les réseaux sociaux aujourd'hui et tous les filtres, beaucoup de jeunes filles ne se montrent pas sous leur ce masque, elles aussi, en essayant d'être de correspondre à justement les dictats de la beauté.
Ouais.
Donc il y a un côté paradoxal. D'un côté, on a vachement avancé, mais de l'autre, justement, culture numérique, les réseaux sociaux ont fait quand même véhicule une certaine image encore de
oui.
la femme.
Mais parce qu'on fait face
objet,
à des siècles d'amélioration de l'image des femmes. Quand on regarde la grande odalisque d'Ingres, c'est un des meilleurs exemples. La grande odalisque d'Ingres a été décryptée, je ne sais pas si tout le monde voit quel est ce tableau, et d'ailleurs il y a une des fresques qui est présentée où c'est un clin d'œil où j'ai repris cette composition pour une campagne avec Amnesty International à l'époque. L'odalisque d'Ingres a été décrypté par des scientifiques qui se sont rendus compte que Ingres avait rajouté des vertèbres dans le dos de cette femme pour le rendre encore plus gracieux. Si on regarde la texture de sa peau, clairement, on dirait une peau de bébé. Même sous ses pieds, on dirait qu'elle n'a jamais foulé le sol. Enfin, clairement, elle est retouchée, en fait. Ingres, il a fait l'ancêtre de Photoshop en retouchant cette femme picturalement. Et puis, si on se penche un peu sur des arts plus anciens, on voit que, bon, il y a quand même une... Alors, ça concerne aussi des corps d'hommes, hein, si on pense aux statues grecques, tu vois, ou des choses comme
oui,
ça.
Oui, les hommes aussi sont dans le culte de la...
Voilà, tout à fait. Mais il y a une habitude qui est extrêmement ancienne et ancrée de manière systémique que tu ne seras jamais comme il faut. Tu ne seras jamais assez belle. Tu ne seras jamais comme il faut. Même les femmes les plus belles le disent. Même les femmes les plus belles se trouvent moches. C'est nul quand même. Tu vois des mannequins, des femmes splendides, des femmes adulées pour leur beauté, admirées, à en être paralysées d'ailleurs, les gens en face d'elles, mais qui se trouvent nulles et moches. Et c'est con, je trouve. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'y coupe pas.
C'est encore en plus accentué, je trouve.
Ouais.
Toutes ces espèces de filtres.
Tout à fait. Et moi, j'interviens beaucoup dans des milieux scolaires. Et là, en particulier, début janvier, j'étais à Strasbourg pour un programme très dense où j'ai vu beaucoup d'élèves dans des collèges. Je suis intervenue dans 4 collèges différents, 4 classes par collège. J'ai vu 400 gamins en 2 semaines. Et j'ai passé mon temps à leur dire ça. Et à leur montrer par des exemples, par exemple, Frida Kahlo, que tout le monde connaît. Et ça me permet aussi de glisser que, regardez, comme il y a peu de femmes qui sont reconnues dans l'histoire de l'art, femmes peintres, vous pouvez en citer peut-être 2, 3... Mais des hommes, vous pouvez en citer 5 ou 10 en moins de 5 minutes. Et de leur dire, regardez comme elle se représente. Elle ne cherche pas à s'améliorer. Elle a gardé sa moustache, elle a gardé son monosourcil. Elle ne cherche pas à nous plaire. Elle veut juste se présenter telle qu'elle est dans son authenticité. Et par ces messages-là, je leur parle aussi de... On est tellement habitués à des images retouchées. On est tellement habitués à améliorer artificiellement, que ce soit par les filtres ou par Photoshop ou n'importe quoi, que du coup, c'est ancré dans notre tête très fort, très, très fort. Et je pense que ça prend du temps à décortiquer tout ça et à déconstruire.
Et toi, tu upgrades le visage de imaginaire.
Oui, c'est ça. Et je trouve
couleurs,
que...
Des moustaches.
Je vois depuis quelques temps, je pense depuis peut-être la pandémie, un changement de paradigme. Et beaucoup plus de jeunes personnes d'une vingtaine d'années qui osent des maquillages faciaux très différents d'avant et qui osent des looks même très excentriques. Ce qui avant, en tout cas moi quand j'avais leur âge, était très mal vu. Moi j'ai passé toutes mes jeunes années, même en étant à Paris, alors que c'est la capitale de la mode hein, quand même, à être pointé du doigt dans le métro, à regarder les chaussures jaunes, attention, vos cheveux, ils sont verts, attention, vous avez ci, ça, et c'était systématique. Et aujourd'hui, je vois beaucoup, beaucoup plus de lâcher prise et de nouveaux looks beaucoup plus excentriques qu'avant, et c'est OK, c'est super.
Et on peut reproduire les maquillages de tes
oui.
œuvres, on est d'accord.
Régulièrement, j'ai des personnes qui m'envoient des photos d'elles maquillées comme mes trucs, comme mes personnages, ou inspirées des maquillages qu'on a vus tout à l'heure, et qui m'envoient des photos, et j'adore, parce que c'est absolument c'est bouleversant. D'avoir des gens qui sont inspirés comme ça, jusqu'à habiter dans leur propre corps ma pratique ou mon approche.
En tout cas, ça leur donne des idées.
Ouais, notamment pour Halloween, j'ai eu beaucoup de succès, notamment aux États-Unis. beaucoup de looks Kashinke.
Est-ce que ces portraits, dans tous ces portraits, il y a, enfin, ces créatures, ces personnes imaginaires, je ne sais pas comment les appeler, il y a quand même une part d'autoportrait.
Bien vu. Oui, la réponse est totalement un grand oui. Évidemment qu'il y a une part d'autoportrait. Je disais tout à l'heure qu'au début, j'avais du mal à peindre des femmes, je peignais que des hommes et je revendiquais de peindre des hommes. J'ai revendiqué ça longtemps. Par difficulté de représenter des corps de femmes, des visages de femmes, je peignais des hommes. Et ce qui m'intéressait, c'était d'aller explorer la sensibilité de ces personnages, de montrer des hommes vulnérables, des hommes qui exprimaient leurs émotions, des choses qu'on ne voyait pas non plus dans les pubs. et qui, du coup, pour moi, revêtait et revêt encore un aspect de moi-même dans cette fluidité de genre qui est la mienne et qui est, du coup, une approche... Si, à défaut de pouvoir représenter une femme forte qui me convienne, parce que c'est difficile de représenter des femmes sans les objectifier, sans les sexualiser, sans les sensualiser ou sans les esthétiser... par exemple, tout le monde connaît peut-être ce truc, tu sais, c'est une espèce de poster de féminisme des années 50 ou 60, We Can Do It, c'est une nana qui fait comme ça, là, tu vois, avec un bandana dans les cheveux. Même elle, elle est hyper belle, elle est hyper belle, tu vois ce que je veux dire ? Donc même dans l'image du féminisme militant, il y a quand même cet héritage de beauté. Donc pour moi, c'était impossible. Je ne pouvais pas représenter des femmes qui ne soient pas esthétiques. Donc explorer des corps d'hommes, des hommes gros, des hommes poilus, des hommes sensibles et bouleversés ou émotifs ou vulnérables, c'était une manière pour moi d'explorer aussi à l'intérieur de moi. Et puis petit à petit, mes personnages sont devenus plus féminins parce qu'ils ont eu les cheveux longs, hein, c'est nul, hein, mais c'est à ça que ça tient. Hein. Faites un petit exercice chez vous, un petit exercice rigolo avec des amis ou des proches et vous leur demandez de dessiner un visage de femme et un visage d'homme. Et vous verrez que les visages de femmes seront toujours améliorés. Les longs cils, on allongera les cils, on rapetissera le nez, même parfois le nez sera invisible. Les lèvres seront gonflées pour faire des lèvres plus pulpeuses. Les cheveux seront longs. C'est des codes esthétiques ancrés profondément. Et pour des visages d'hommes, pas forcément besoin d'avoir autant de critères. Alors, en général... ils ont des cheveux, donc c'est pas le cas de tous les mecs, hein, désolé. Voilà. Donc c'est le seul truc qui est un peu chiant, tu vois, où tu te dis, bon voilà, dans les esthétiques, voilà, les mecs, ils doivent avoir des cheveux. Bon. Mais il y a plus de possibles, tu vois, et c'est ça qui est la diff entre les deux. Mais en rallongeant les cheveux de mes personnages, et donc en les faisant me ressembler un peu plus, puisque j'aime bien avoir les cheveux longs depuis longtemps, et ben du coup, je me suis rapprochée effectivement de cette forme d'autoportrait dont tu parlais. Et tous mes personnages ont plus ou moins des moustaches, donc il y a aussi cette petite coquetterie. Mais j'aime bien aussi le fait de les considérer comme, voilà, on dit non-binaire aujourd'hui, c'est un mot qui est relativement nouveau. Moi, j'aime bien l'idée de fluidité de genre ou de fluidité en général, puisque je fais beaucoup de choses différentes dans ma pratique artistique aussi, donc j'aime bien cette fluidité constante.
Oui. Tu fais de la musique, des performances aussi.
C'est ça. Et du coup, peut-être que ça te permet de faire une transition sur tes questions d'après.
Non, pas du tout, parce que du coup, je ne savais plus comment...
Comme tu veux, on raccroche les wagons avec ton truc.
Non, mais tu peux aussi parler de cet aspect, justement, d'artiste un peu pluriel. Quoi.
Oui, voilà.
Et alors... protéiforme, qui va peindre dans la rue, c'est une performance... On parlera de la difficulté de la monstration après, si on a un peu de temps.
Ouais.
Mais aussi que désormais, que tu peux faire aussi des concerts où tu es...
Full caching.
Voilà, full caching.
C'est la forme, tu sais, le Pokémon, je ne sais pas s'il y a des gens Pokémon là.
Mais personnages.
En fait...
Tu fais aussi beaucoup de musique.
Oui. Et ça, c'est assez nouveau pour moi d'avoir... Enfin, c'est pas nouveau pour moi d'explorer différents médiums pour m'exprimer par rapport à ma pratique et dans les mêmes idées qui se recoupent autour toujours de cette, des mêmes grandes lignes. Pendant le premier confinement, comme tout le monde dans cette salle, je n'ai plus pu sortir et je n'ai plus pu voyager, donc je n'ai plus pu peindre dehors, je n'ai plus pu travailler en fait. Et donc je me suis retrouvée un peu à la fois soulagée, véritablement, parce que j'avais un rythme extrêmement soutenu, et donc j'étais épuisée. Je me suis bien reposée, j'ai beaucoup dormi, dans un premier temps. Et après, je me suis dit, mais j'ai envie de faire des trucs pour rien, puisque je peux rien faire. Alors faisons des choses pour rien. Et la musique m'est revenue naturellement. J'ai pratiqué de la musique plus jeune, j'ai chanté dans des groupes de punk hardcore. Je criais plus que je ne chantais. et j'ai fait un peu de musique électronique et j'ai pratiqué un peu voilà des instruments. Mais ça faisait très longtemps, j'avais plus le temps en fait pour ça. J'avais plus du tout de temps. Et tout à coup, le confinement arrive et puis j'ai plus que ça à faire. Et donc, je me suis lancée un petit défi. Tous les dimanches, je faisais un live sur Instagram où je jouais de la musique totalement freestyle, expérimentale.
Électronique.
Hein. Électronique, avec mon ordinateur et puis un synthé un peu des années 90 qui fait des sons marrants. Et avec un micro de karaoké, vous savez, c'est celui avec la petite box chien, là, où tu peux changer de voix et tout, c'est trop marrant. Donc du coup, je me faisais super plaisir. Et je me suis dit, mais en fait, mais j'adore. Mais c'est comme si c'était une extension sonore de mon univers.